Pierre Veil, bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Emmanuel Macron en visite à Mayotte, archipel dans l'océan Indien, confronté à l'immigration clandestine. Le chef de l'État s'est rendu dans un village où arrivent régulièrement des embarcations venues des Comores. Reportage dans un instant. L'hôtel Matignon demande des explications à un de ses chargés de mission, l'ancien secrétaire d'État italien Sandro Gozi, qui est aussi consultant pour le gouvernement maltais. 6 départements du sud de la France en vigilance orange pour des pluies et inondations jusqu'à demain soir. Nous irons dans l'Aude, déjà sévèrement touchée par des inondations il y a un an. Les laboratoires d'analyse médicale en grève pendant 3 jours. Ils refusent les économies que le gouvernement veut leur imposer en 2020. Les 2 gérants du Cuba Libre, où 14 personnes sont mortes asphyxiées dans un incendie en 2016, condamnés par le tribunal correctionnel de Rouen à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Marre de l'agribashing, bref le dénigrement, les agriculteurs ont manifesté leur colère devant les préfectures, témoignage à Bordeaux dans ce journal, même protestation en Allemagne, nous serons à Berlin. Au Japon, le nouvel empereur Naruhito proclame son intronisation devant 2000 invités selon un rituel que nous racontera notre correspondant à Tokyo. Au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, le bac, c'est dans 3 mois déjà, figurez-vous. La première pause vacances de la Toussaint, comment les élèves de première ont vécu ce début d'année réforme du lycée. Les 3 spécialités, les maths, dont tout le monde dit que le niveau est beaucoup trop haut. Comment ça va se passer pour le contrôle continu, les conséquences des choix sur Parcoursup. Quelle spécialité est-il plus judicieux d'abandonner puisqu'il faudra en laisser une en route? Venez partager tout ça avec nous au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est son premier voyage officiel dans l'océan Indien. Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Mayotte, archipel de 374 km², devenu département français en 2011. 48% des 256 000 habitants sont des étrangers, dont 95% des Comoriens. Emmanuel Macron donc très attendu sur le dossier de l'immigration clandestine. À peine sur place, le chef de l'État a embarqué à bord d'un navire intercepteur de la police aux frontières, dont le rôle est d'empêcher des embarcations de fortune transportant des migrants d'accoster à Mayotte. Dans l'après-midi, il s'est rendu dans un village où arrivent régulièrement des embarcations avec à leur bord des Comoriens. Reportage Cyril Graziani.
Au loin se dessine une ombre, les contours de l'île comorienne d'Anjouan. C'est de là que les Kwasa Kwasa, ces bateaux de fortune, partent pour rejoindre Mayotte et notamment la plage d'Amjago. Devant quelques centaines de villageois, colliers de fleurs autour du cou, Emmanuel Macron a tenté de les rassurer.
Maore Faranza.
D'abord avec quelques mots en maorais, la France est Mayotte pour toujours, puis il se fait plus politique.
Plus de sécurité, pas en ayant un discours d'exclusion, comme je l'entends parfois. Pas en ayant un discours qui consiste à dire « notre ennemi, il est de l'autre côté de la mer ». Et donc, on peut assurer la sécurité, on peut lutter contre l'immigration clandestine, sans avoir un discours de haine avec les autres qui sont vos frères. Qui sont nos frères.
Dans cette ville de Msamboro, le Rassemblement National a fait un score tonitruant, plus de la moitié des voix aux européennes, et c'est une des seules villes d'outre-mer que le parti de Marine Le Pen convoiterait au municipal. Alors le chef de l'État tente de contrer celui qu'il a déjà désigné comme son adversaire.
Maintenant, si on laisse l'immigration clandestine au niveau où elle était, vous avez vu les chiffres du Rassemblement National ici, c'est une résultante, c'est que les Mahoraises et les Mahorais disent si vous laissez l'immigration clandestine, à ce moment-là, il n'y a plus de règles.
À 8000 km de Paris, il régnait comme un air de pré-campagne des municipales. À Msamboro, François Rivalan, Cyril Graziani, France Inter.
Et après Mayotte, Emmanuel Macron se rendra dans l'île de la Réunion.
Alerte météo dans 6 départements du sud de la France.
Oui, les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, de l'Aveyron, du Tarn et la Principauté d'Andorre sont placés en alerte orange pour des orages, pluies et inondations jusqu'à demain soir. Cela un an après les inondations meurtrières dans l'Aude. 14 personnes avaient perdu la vie, on comptait plus de 200 millions d'euros de dégâts. Stéphane Iglesis se trouve dans l'Aude à Leucate où la pluie tombe sans discontinuer.
Comme prévu, les pluies se sont intensifiées en début de soirée sur le littoral languedocien, mais aussi l'est de l'Aude, Narbonne et dans l'Hérault. La rue principale de Leucate Village s'est transformée en torrent. Alex, qui tient l'hôtel 1921, est aux premières loges.
C'est un torrent qui dévale, c'est le bon mot, effectivement. C'est la première fois que je vois ça, je vous avoue. Là, les pluies sont vraiment très très fortes et surtout elles durent depuis un moment. Les sols sont très secs, on n'a pas eu de pluie du tout d'été, donc tout dévale, tout rigole d'ailleurs. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'eau n'est pas du tout claire, elle est chargée en boue et en limon et en poussière certainement. Et en plus, on a du mal aux évacuations puisque la mer est en train de monter, donc on se prépare de mauvais moments, mais plus vers la plage que dans le village où on reste quand même relativement protégé.
Quant à Robert, son tabac de Port-le-Cat est ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente, et les clients sont au rendez-vous.
On est toujours présent pour les clients. Nous avons des pluies, c'est sûr, mais à cette époque, nous avons habituellement des pluies continues et non orageuses comme aujourd'hui. Non, mais on n'a pas quand même cette peur. Je pense que vous voyez à peu près comment ça se passe ici. On n'a pas forcément des peurs du fait que, même si nous sommes entre l'étang et la mer, on n'a pas beaucoup de risques pour nous.
La nuit promet d'être longue et la pluie, la grêle par endroits, les rafales de vent ne vont pas baisser d'intensité avant le matin. Le cas de village, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, le PDG du groupe américain Eric Schnur affirme que le sinistre s'est déclaré à l'extérieur du site. Il affirme que les produits brûlés ne présentent aucune menace sur la santé. Il promet que son groupe assumera sa part des indemnisations pour dédommager les agriculteurs, mais aussi le secteur touristique, sans toutefois évoquer de montants. Propos tenus lors d'auditions aujourd'hui devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, puis la commission d'enquête du Sénat. Il s'appelle Sandro Gozzi. De 2014 à 2018, il a été secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement italien. Il figurait sur la liste La République en marche pour les élections européennes en mai dernier. Cet été, il a rejoint le cabinet d'Édouard Philippe à l'hôtel Matignon en tant que chargé de mission temporaire. À l'époque, une partie de la classe politique italienne avait crié à la trahison. Nouveau remous ces derniers jours. Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Selon plusieurs organes de presse, Sandro Gozzi a signé un contrat de consultant avec le gouvernement maltais.
Oui, c'est en tout cas ce que révélait hier le Times of Malta, l'existence de ce contrat de consultant signé il y a 18 mois avec le gouvernement maltais. Le problème, c'est que Sandro Gozzi, qui est réputé, c'est vrai, pour être un fin connaisseur des sujets européens, a signé également en juillet dernier une mission avec un autre gouvernement, le gouvernement français. Et ce ne serait d'ailleurs pas tout, selon le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont, qui a interpellé cet après-midi le Premier ministre à l'Assemblée.
Votre conseiller est aussi sous le coup d'une enquête pour travail fantôme à Saint-Marin, pour un contrat rémunéré 200 000 euros auprès d'une banque de ce paradis fiscal. Monsieur le Premier ministre, pour qui travaille réellement votre conseiller ? Pour lui-même, pour la France, pour Malte, pour l'Italie.
Manifestement agacé, Édouard Philippe a malgré tout défendu dans l'hémicycle son chargé de mission italien, Sandro Gozzi, tout en lui réclamant assez fermement des preuves de ce qu'il dit.
Nous avons donc invité Monsieur Gozzi à produire les explications les plus complètes, comme il l'avait fait par écrit, monsieur le député, au moment de son embauche. Monsieur Gozzi a indiqué que son emploi à Matignon, depuis le 30 juillet 2019, était exclusif de toute autre activité professionnelle, a fortiori pour un autre gouvernement. Nous en prenons acte.
Sauf que, pour l'instant, le flou persiste. Pourquoi ? Parce que Sandro Gozzi a décroché ce contrat à Matignon essentiellement pour patienter. Emmanuel Macron lui avait promis une place éligible sur la liste La République en marche aux dernières européennes. Mais en ayant été 22e, il ne deviendra eurodéputé qu'une fois le Brexit définitivement scellé. Donc la France a dû l'occuper.
Karine Bécard sur les activités de ce chargé de mission à Matignon, Sandro Gozzi. Christian Jacob, le nouveau président des Républicains, présentera demain à la mi-journée le nouvel organigramme du parti. Celui qui s'est engagé à rebâtir la droite en repartant de la base passe à l'action. Il s'entoure d'une équipe resserrée et rajeunie, issue des territoires. Fini le parisianisme au siège du parti. Cécilia Arbonnat, bonsoir.
Bonsoir.
Place aux élus de proximité.
C'est la récompense effectivement de la France des terroirs, celle qui est à l'écoute du cœur des habitants. Voilà en tout cas comment un des appelés résume ses atouts. Parmi ces nouveaux venus, des inconnus du grand public, mais très actifs au plan local. Guillaume Guérin, 32 ans, premier adjoint à la ville de Limoges. David Marguerite, 39 ans, conseiller régional de Normandie. La tête d'affiche de cette jeune garde étant incarnée par Aurélien Pradier, 33 ans, député du Lot. Il est pressenti pour être le secrétaire général des Républicains. Il serait de fait le bras droit de Christian Jacob, qui ne désignera pas de porte-parole, mais 6 vice-présidents. Dans l'organigramme également, des élus d'expérience qui bénéficient d'un solide ancrage rural. Alors il y a clairement un changement d'éclairage sur cette photo de famille des Républicains. Les figures des territoires passent au premier rang, les barons reculent d'un rang, voire davantage. Et pour ne pas froisser des personnalités qui restent influentes, Brice Hortefeux conserve sa mission de conseiller politique et Éric Ciotti reste pour l'instant président de la commission d'investiture.
Cécilia Arbonin. L'Assemblée nationale a largement adopté en première lecture par 354 voix pour, 186 contre et 16 abstentions le volet recettes du projet de budget pour 2020 qui prévoit plus de 9 milliards d'euros de réduction d'impôts. Patrick Balkany, qui dort en prison depuis plus d'un mois, s'est présenté à la mi-journée dans le box de la Cour d'appel de Paris pour demander, je le cite, un peu d'humanité et sa mise en liberté dans la première des deux affaires pour lesquelles il est incarcéré. Décision des juges lundi prochain.
50 prisons, dont 3 fermes pour les deux gérants du Cuba Libre.
Oui, ce bar de Rouen, dont l'incendie avait provoqué la mort de 14 personnes en août 2016. La cave de l'établissement avait été aménagée sans autorisation, avec des matériaux hautement inflammables. La porte de secours était fermée. Le procès des deux frères Boutrif, poursuivis pour homicide et blessures involontaires aggravées, s'est tenu sur 6 jours en septembre. Le procureur avait requis 4 ans de prison ferme. Le tribunal s'était donné plus d'un mois pour délibérer. À Rouen, Christine Wurtz.
La mère de Florian s'est effondrée à la fin de l'audience et Thierry, son père, ne contient pas sa colère.
Ça passe pas, je suis désolé. On a tout perdu et notre enfant ne reviendra jamais. Alors que eux, dans 3 ans, ils seront dehors.
Mais 3 ans de prison ferme, c'est tout de même un soulagement pour des parents comme Marie, qui a perdu son fils Maverick dans l'incendie.
Certes, c'est que 3 ans, mais ils vont voir un petit peu. Peut-être que nous, on endure tous les jours. Nous, déjà, depuis 38 mois.
La page judiciaire est désormais tournée, mais le deuil reste impossible à faire, confie le père de Zach.
Rien ne nous aidera à faire notre deuil. Le jour où je fermerai les yeux, vous direz, si vous vous souvenez de moi, vous direz, Rémi Hubert a fait son deuil.
Difficile pour les familles de faire la part des choses, et pourtant la prison ferme, l'interdiction de gérer un établissement, l'obligation d'indemniser les victimes sont autant de messages adressés par le tribunal. C'est ce que veut croire Fabien Picciottino, l'un des avocats des parties civiles.
C'est même plus qu'un avertissement qui est envoyé aux autres gérants. Il faut mettre aux normes vos établissements, il faut faire attention parce qu'en cas de tragédie comme celle-là, vous allez finir en prison.
Le 23 novembre, les familles ont prévu de se rassembler devant l'hôtel de ville pour un dernier hommage à leurs enfants. Christine Wurtz, France Bleu Normandie pour France Inter.
Les laboratoires d'analyse biologique ont fermé leurs portes aujourd'hui et cela jusqu'à jeudi soir. Une grève pour montrer leur mécontentement face aux 170 millions d'euros de restrictions budgétaires qui leur sont imposées par l'assurance maladie en 2020. Fin septembre, la quasi-totalité des labos était déjà restée fermée l'après-midi pendant une semaine. Chaque jour, près de 500 000 patients font des analyses dans des laboratoires en France. Nicolas Lemoyne est membre du syndicat des biologistes. Il redoute une casse des laboratoires de proximité.
Depuis 10 ans, les laboratoires se concentrent, font des économies d'échelle, restructurent. Et là, on est quasiment arrivé au bout. Il y a plus de gras. Et donc, s'il faut faire des économies supplémentaires, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est la fermeture d'un certain nombre de sites, y compris dans des zones qui sont peut-être un peu sous-dotées au niveau médical. Aujourd'hui, notamment au Pays de Loire, il n'y a pas un patient qui a moins de 25 minutes, 30 minutes d'un laboratoire. Si demain, vous devez faire 45 minutes ou une heure de voiture pour aller vous faire une prise de sang, ça démontre quand même un système qui aura failli. D'autant plus que parfois, il y a des urgences vitales où on doit traiter quand même les analyses dans un délai compatible avec une prise en charge optimale pour le patient.
Propos accueillis par Anne Patinec de France Bleu Loire-Océan. Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie à des millions de foyers français vont augmenter de 3% au mois de novembre. C'est ce qu'annonce la Commission de régulation de l'énergie.
Il est 19h13 sur France Inter. Pierre, les agriculteurs ont à nouveau tapé du poing sur la table. Ils demandent à Emmanuel Macron de mieux les défendre.
Et ils se sont donné rendez-vous devant les préfectures partout en France. Des manifestations à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour dénoncer l'agribashing, la déconsidération du monde agricole et de ses pratiques, les accords de libre-échange, les distorsions de concurrence avec les agriculteurs à l'étranger, les retards de paiement des aides européennes. En Gironde, ils étaient une vingtaine sur un carrefour près de Bordeaux. Ils ont sensibilisé les clients à bien lire les étiquettes pour connaître l'origine des produits. Ils veulent renouer avec les consommateurs. Témoignage de Vincent Bougès, il est le président des jeunes agriculteurs de Gironde, au micro de Mélanie Juvet.
On sous-estime trop le poids de l'agriculture dans nos territoires, en termes d'impact aussi sur l'emploi. Si on regarde en Gironde, la viticulture est un des premiers bassins employeurs de Gironde. Alors après, avec toutes les filières amont et aval. Donc c'est pour ça que nous, le sens de notre mobilisation, c'est de dire stop un petit peu à cet agribashing ou à cet acharnement médiatique qui pointe trop souvent ce qui est plutôt négatif sur nos pratiques. on pointe trop souvent l'usage soit de pesticides, alors qu'au contraire, on fait beaucoup d'efforts. C'est pas assez mis en avant. Et aussi, c'est l'idée de calmer un petit peu la peur qu'ont les citoyens, tout ça. On est un petit peu dans un climat délétère de méfiance qu'il faut appeler à la raison.
Et en Allemagne, les agriculteurs ont aussi manifesté leur colère aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'en France. Ils en ont assez d'être dénigrés. À Berlin, Ludovic Piétenu.
Des centaines de tracteurs dans les rues de Berlin, Hanovre ou Munich. Les automobilistes coincés dans les embouteillages se voient remettre des sacs de pommes de terre pour soulager leur attente. À Bonn, ils étaient 7000 agriculteurs contre une loi du gouvernement qui prévoit une réglementation de plus en plus stricte, trop stricte selon eux, en matière d'environnement et de protection des insectes et des oiseaux. Comme en France, le gouvernement allemand veut interdire le glyphosate, ce défilé de tracteurs visait à obtenir le soutien de la population, explique cet agriculteur interrogé à Bayreuth par la radio publique bavaroise. Nous aimerions simplement être entendus, dit cet agriculteur. Nous n'avons rien contre la protection des insectes ou des nappes phréatiques, on veut bien tout ça, mais nous aimerions en discuter et nous voulons le faire à notre manière. Beaucoup d'automobilistes allemands klaxonnent vigoureusement. Ils ne sont pas de notre côté, témoignent les agriculteurs. Logique, car en Allemagne, la protection de l'environnement est le sujet de préoccupation première dans l'opinion publique, ce qui complique le combat des agriculteurs. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Le président chilien Sébastien Piñera va réunir l'ensemble des forces politiques dans les prochaines heures pour tenter de trouver une issue à la violente crise sociale qui secoue le pays depuis 5 jours. Bilan à l'heure actuelle, 15 morts, 240 blessés, plus de 2600 personnes arrêtées. Alors que de nouvelles manifestations et des grèves sont annoncées, le président change de ton. Dimanche, il disait que le Chili était en guerre. Il semble vouloir désormais jouer la carte du dialogue. Récit à Santiago, Clara Dantec.
Lautaro González a regardé le discours du président chilien chez lui lundi soir, quelques minutes après l'entrée en vigueur du couvre-feu, mis en place pour la troisième nuit consécutive à Santiago. Ce retraité se dit dépité par l'action du gouvernement.
Le président Piñera ne devrait pas avoir besoin de consulter les partis politiques. Il sait très bien quels sont les problèmes à régler dans la société. La situation économique est très mauvaise, il devrait le savoir. Par exemple, l'eau et l'électricité ont beaucoup augmenté et ça devrait prendre encore 10%. C'est tout ça qui pousse les gens à sortir dans la rue.
Chris Fuentes, jeune publiciste, est également indigné par le discours du président qui a une nouvelle fois mis l'accent sur les incidents violents de ces derniers jours.
Piñera n'a donné de solution à aucune demande sociale. Pendant toutes ses conférences de presse, il n'a fait que parler de pillage et de violence, alors qu'on sait tous que cela vient de groupes minoritaires. Ici, il n'y a pas de guerre. Nous sommes tous unis. C'est ça qu'on essaye de défendre.
Chris attend des annonces concrètes, des mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais aussi une amélioration des systèmes de santé publique et d'éducation. Comme elle, de nombreux Chiliens estiment que leur gouvernement est déconnecté des demandes de la société. Santiago, Clara Dantec, France Inter.
Les combattants kurdes affirment ce soir s'être totalement retirés de la zone de sécurité voulue par la Turquie au nord de la Syrie avant l'expiration d'une trêve négociée avec Ankara. Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui le président turc Recep Erdogan. À l'instant, Vladimir Poutine dit que des solutions décisives ont été trouvées avec Erdogan. Des patrouilles russo-turques seront déployées dans le nord-est de la Syrie. Le Japon a célébré aujourd'hui l'intronisation de son 126e empereur. Naruhito, il a 59 ans. Il a succédé à son père Akihito qui avait abdiqué en avril. Cérémonie très suivie dans le pays. Le gouvernement a décrété que la journée était fériée pour tous. Au fil des heures, les Japonais ont vu à la télévision les différents rituels extrêmement codifiés dont certains remontent au 7e siècle à Tokyo. Yann Rousseau.
La maison impériale japonaise a offert un spectacle somptueux et hors du temps, et à part quelques coups de gong, presque tout s'est passé dans le silence, dans les temples et les salles privées du palais en plein centre de Tokyo. On entendait seulement le glissement sur le sol des étoffes, des habits d'apparat de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako. Tout avait commencé pour eux dans la matinée avec des rituels religieux, ils avaient dû aller prévenir la déesse du soleil et les âmes de leurs ancêtres de leur arrivée sur le trône. En milieu de journée, ils se sont retrouvés côte à côte, derrière de grands rideaux violets, sous les baldaquins de leurs trônes respectifs décorés de bois précieux et de feuilles d'or. Comme au théâtre, les rideaux ont été tirés, Naruhito est apparu presque figé pour proclamer son intronisation. Simplement quelques mots pour assurer qu'il incarnerait l'unité du peuple du Japon. Le premier ministre nippon s'est alors avancé pour crier 3 fois « Banzai », ce qui signifie 10 000 ans, mais aussi « Longue vie à l'empereur », et les rideaux sont retombés, la cérémonie était terminée. La seule concession à la modernité a été ce soir le ballet des berlines dans la cour du palais. Elles amenaient les 400 invités, dont les 180 représentants de pays étrangers, du fastueux banquet donné par le couple impérial.
Voilà, reportage à Tokyo. Retour en France, on connaît le nom du futur directeur de l'Opéra de Lyon. Il s'agit du metteur en scène Richard Brunel. Il dirige actuellement la Comédie de Valence. C'est la première fois qu'un artiste va diriger le deuxième opéra de France. Et puis tout à l'heure, Fabienne, sur France Inter à partir de 20h, soirée exceptionnelle, concert privé, triple affiche.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort.
Moi qui disais, ça fait longtemps que vous nous avez pas parlé de musique et de rock'n'roll, Pierre.
Vous vous rendez compte,
beaucoup.
On aura là sur scène, dans la maison de la radio, au studio 104, Stéphane Escher, il va chanter son dernier album, le 15e, Homeless, douceur, musique folk, concert privé avec aussi Patrick Watson et Michael Kiwanuka. Vous savez, c'est l'auteur de la bande originale de la série Big Little Lies. Donc je pense qu'il va interpréter sur scène Cold Little Heart, qui est absolument sublime.
Mais voilà.
Au début de chaque épisode de Big Little Lies. En direct du studio 104 à partir de 20h jusqu'à 22h, soirée présentée par Rebecca Manzoni. Quelle soirée!
Ah voilà, formidable. Merci beaucoup Pierre Veil, on se retrouve demain. Évidemment, merci de passer la soirée avec nous dans un instant. C'est le téléphone sonne, comme tous les soirs, l'œil sur le ciel.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Ah. Pardon, on était en pleine discussion au sujet du concert de ce soir. Elodie Kellac, attention aux orages.
Oui, les pluies orageuses concernent encore l'Occitanie. Ce soir, 6 départements sont en vigilance orange. On a déjà eu de forts cumuls de pluie en très peu de temps. Un regain d'activité est attendu cette nuit. On attend toujours des orages violents, parfois stationnaires, de grosses quantités de pluie en peu de temps, des ruissellements, des débordements de cours d'eau et puis un vent d'est parfois violent qui va générer de fortes vagues, donc prudence.
Et sinon, donc, il faudra rester prudent demain également.
Oui, ça s'arrangera seulement en début d'après-midi sur l'ouest, mais le temps très agité s'étendra du sud du Massif central et du Languedoc vers la Côte d'Azur l'après-midi. Sur les autres régions du sud, il pleuvra demain. Et puis au nord, on aura des nuages le matin, un peu plus d'éclaircies vers le nord-est et de la douceur, 16 à 21 degrés attendus demain, jusqu'à 30 degrés à Ajaccio. C'est le Sirocco, Fabienne.
Allez, c'est Elodie Kellac de Météo France. Merci beaucoup.